we are embarked in this PDAP process. Actually, since maybe I would say 1 or 2 years ago, and among things that we have been doing is first of all to assess the first part of PDAP, because since 2012 we've been implementing the PDAP 1 with its priority projects. Actually, the first phase of PDA was to run up to 2020, and you can see that we are already 2020. So 8 or 9 years ago, we were seeing 2020 as a very long term, but we can see today that is not, with good health and with good health, we'll see that the time is really moving fast. Donc, comme je disais, depuis l'adoption de PIDA en 2012, on a travaillé d'arrache-pied pour la mise en œuvre des projets qui étaient inclus dans la première phase du PIDA. Donc, la première phase du PIDA qui devrait s'étendre de 2012 à 2020. Donc, en 2012, quand le programme a été adopté, on pensait que 2020 était loin. Mais on voit aujourd'hui qu'avec la santé, le temps passe tellement vite. Et aujourd'hui, on est en 2020, donc qui marque un peu la fin de la première phase du PIDA. So, before arriving at the end of this phase, 2 years or 3 years ago even, we start looking forward to preparing the next phase of PIDA, what we call today PIDA PAP 2, which actually is planned to be running from 2021 to 2030. In that process, the ministers in charge of transport, ICT, water, energy actually asked us to do some preparatory work that will lead to the PIDA PAP 2 actually. Donc, among those work, we were first asked to assess the first phase of PIDA. Because when you are building a new construction, you have to see what happened in the first, and to kind of draw some lessons, see what worked well, what didn't work well, and what could be improved. So that's the first exercise actually we conducted to what we call, the name of that project was PIDA Midterm Review. Donc, collègues, quand on s'est approché de la date butoir de la première phase du PIDA, qui est 2020, je pense que 3 ans plus tôt, nous avons commencé à réfléchir à la préparation de la prochaine phase du PIDA, qui s'étendra de 2021 à 2030. Donc, de ce fait, il y a eu des travaux préparatoires que les ministres en charge des transports, de l'énergie, des télécommunications et des eaux nous ont demandé de faire quelques travaux préparatoires. Parmi ces tâches, la première des tâches, c'était vraiment la revue à mi-terme de PIDA, donc la revue de la première phase du PIDA, pour voir qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, pour voir quelles leçons nous pouvons tirer pour nous améliorer dans le futur. Parce que le programme du PIDA, quand il a été adopté en 2012, c'était comme le premier, c'était une première en Afrique, en fait, d'avoir un cadre stratégique où toutes les parties prenantes s'accordent pour développer le secteur, notamment le secteur des infrastructures. Donc, cette revue nous permettait, en fait, de tirer des leçons pour éviter éventuellement des erreurs qui ont été commises dans la première phase pour que la deuxième phase dont nous allons entamer l'année prochaine soit plus effective et ça soit plus efficiente. Voilà. So the second thing that we were asked actually as we were moving forward to the preparation of PIDA PAP 2 is to conduct a market and demand study. The market and demand study actually will examine the infrastructure landscape in Africa, the current infrastructure that we have. It will also assess the development growth that we are expecting on the continent in the next years to come. Also, the demographic growth and and to assess what infrastructure will need to in Africa to actually meet this this growth, this objective. So that's the second pillar of the project, actually, that we did as preparatory work that will lead to the development of PDAPAP 2 process. So basically is really to see what we have today in as infrastructure, what we need as infrastructure for tomorrow, so that we can provide a basis for our economic growth, to provide a basis for some of our flagship projects that we are aiming to implement, including the African Free Trade Free Trade Area, because you know that infrastructure is a catalyzer, if I can say like that, or even a key prerequisite for the successful of AFCFTA. Donc, chers collègues, la deuxième tâche que nos ministres nous ont demandé de conduire, c'était de faire une étude de marché et de la demande en infrastructure sur le continent. Cette étude a fait un état des lieux des infrastructures que nous avons sur le continent. Et aussi, il regarde nos objectifs de développement en termes démographiques, en termes économiques, et puis nous dire quelles infrastructures nous avons besoin au niveau régional et continental pour pouvoir faire face à cette évolution. Et en tenant compte aussi des contextes nouveaux, parce que depuis l'adoption de 2012, il y a eu de nouvelles initiatives, il y a eu de nouvelles orientations de nos chefs d'État. Et parmi ces orientations, le plus célèbre, c'est la zone de libre-échange africaine. Donc, de voir quelle infrastructure nous avons besoin pour pouvoir faire face à cette tendance. Donc, ce deuxième gros travail que nous avons mené, la présentation d'aujourd'hui va se focaliser sur ça. C'est une sorte de recherche et d'analyse que nous avons menée pour évaluer le besoin en infrastructure sur le continent sur les 10 prochaines années. Et en fonction des résultats de cette étude, nous avons essayé de partir la liste des projets qui vont faire la priorité du continent dans le cadre du PIDA. Mais vous conviendrez aussi avec moi que PIDA, c'est un programme, bien sûr, qui va essayer de résoudre une partie de cette demande en infrastructure. Mais le reste des demandes qui ne sera pas couverte par PIDA devra aussi être couverte par les plans directeurs qui sont au niveau des régions. So, the demand that this market and study will highlight as a result, PIDA, the priority list of PIDAPAP 2 project that we have been working on will cover a part of this demand, but the remaining part will also should be covered by the master plan that are developed at regional levels. So today the presentation that the consultant will be making will be focusing on this second part. The third part also you have been involved in during the whole process, that the PIDAPAP 2 itself, starting from the integrated corridor approach, going to the project selection criteria that we developed together, all the way to the project identification and also project selection at the regional and member state level, and finally the project screening at with the PIDA task force. Donc, le troisième lot du travail, vous avez été tous et toutes impliqués là-dedans. C'est d'abord l'approche du corridor intégré qui était définie comme le fondement de la deuxième phase du PIDA. Donc, vous avez été impliqués dans la définition de cette approche, dans sa conceptualisation, dans la définition des critères de sélection des projets et jusqu'à l'identification des projets. Vous avez été impliqués dans tout ce processus avec, bien sûr, l'apport de la du groupe de travail technique qui a été mis en place pour faire la priorisation des projets. Donc aujourd'hui, la présentation va se focaliser sur le deuxième module qui est Market and Demand Study. En fait, c'est une recherche qu'on finalise, mais ça va, c'est quelque chose qui va rester valide dans les 10 prochaines années, auquel on peut toujours faire référence dans nos différentes pour nous permettre de prendre différentes décisions en matière des infrastructures. So this presentation that we are making today on the market and demand study will be valid up to the next 10 years. We can use it as a reference for our decision-making process. So I think the introduction was long, but I think it was worth it just to give a very big picture of what we are doing, how all these modules are linked together. That's very, very important. So unless there is if there is any at this point any seek for clarification, we are open to do so. If there is no need for clarification, I would just request the consultant to go directly and start the présentation. Donc, je disais que l'introduction a été un peu longue, mais je pense que c'était nécessaire pour un peu donner le cadre général dans lequel toutes ces tâches ou tous ces modules de travail sont inclus, parce que tout est lié. Donc, dans la présentation que le consultant va faire, il va nous éclairer, non seulement nous donner les résultats des différentes recherches et des analyses, mais aussi, il va nous donner comment cette étude qu'on est en train de présenter aujourd'hui a contribué à l'élaboration des différentes stratégies de mise en œuvre et de financement des projets du PIDAPAP 2 qui vont être présentés devant nos ministres très prochainement. So, if you don't have any need for clarification at this point, I will give the floor to the consultants to present, and during his presentation, he will show us how the results of the study that they did and the analysis that they did will also contribute to the development of key strategies that will help implementing the PIDAPAP 2, that will help in financing the PIDAPAP 2. But also that will help in terms of engaging with the key partners that will support the implementation of PIDAPAP 2 process. So I thank you. Just maybe two minutes if there is any need for clarification at this point. Otherwise, I will give the floor to the consultant for his presentation. I thank you for your attention. Merci beaucoup pour votre attention. So I think the Hicham, you can share your screen and maybe start the presentation.
Yes, can you hear me?
Yes, we can hear you, and we see your I can see your screen.
Okay, thank you very much. Thank you, Yacouba, for this introduction. I think, first of all, in terms of logistics, the slides are in English, so maybe I can present in French to give access to both languages for the English speakers who can read the slides and to the French speaker who can hear my voice, maybe. What do you think, Yacouba?
Yeah, I think that would be great. That would be great.
Okay,
Yeah, that's okay.
no problem. Thank you very much. Shokran, merci pour être ici, mesdames, messieurs, merci pour votre temps. Comme Yacouba l'a très bien présenté, CPCS, qui est un bureau canadien d'études et d'ingénierie, donc je vous parle depuis Montréal aujourd'hui avec mon collègue Guenang Chen, qui est avec nous sur la ligne, a été mandaté par l'Union africaine pour mener à bien cette étude d'estimation de la demande à long terme en infrastructure régionale. Ça s'inscrit dans le cadre plus global de l'ensemble des activités qui ont été menées pour arriver au PIDAPAP 2, comme l'a très bien expliqué Yacouba. On va traverser, à travers cette présentation, plusieurs aspects. Donc, je vais vous représenter quel est l'objectif de notre mission qui nous a été donnée par l'Union africaine, comment on s'est organisé pour la conduire, quelles sont les analyses qui ont été conduites. Je montrerai aussi, lors de cette présentation, le lien entre le travail qui a été fait et le, disons, le process global du PIDAPAP2. Et enfin, j'aurai un petit focus, et peut-être mon collègue Geneng sur la ligne vous présentera un des résultats de cette étude qui est un outil de visualisation des infrastructures qui est consultable sur le web et qui nous a été commandé par l'Union africaine et que je trouve très intéressant. Alors, j'espère pouvoir vous présenter ça. Donc, encore une fois, merci de votre attention. Le Market and Demand Study, donc l'étude sur la demande d'infrastructures, a été mandatée par la Commission de l'Union africaine l'année dernière et avait comme objectif d'examiner le déficit potentiel d'infrastructures entre l'infrastructure existante aujourd'hui et la demande de demain. Et donc, et de voir comment traduire ce déficit ou ce gap en termes de besoin d'investissement. Donc, il y a en termes de gap de capacité, de déficit de capacité, et donc en termes de besoin d'investissement pour répondre à ces limites de capacité. Et ça, sur les quatre secteurs reconnus du PIDA, que sont le secteur des transports, le secteur de l'énergie, le secteur des eaux transfrontalières et le secteur des TIC. D'accord. À noter ici que l'étude a pour objet les infrastructures régionales, c'est-à-dire que on va s'intéresser essentiellement aux infrastructures qui connectent les pays entre eux ou qui connectent les régions entre elles. Il y a une définition d'un projet régional au sens du PIDA qui est la suivante, qui dit qu'un projet régional est soit un projet transfrontalier qui offre des services d'infrastructure à plusieurs pays, soit un projet national avec un impact régional. Et le meilleur exemple, c'est bien sûr une centrale électrique construite dans un pays A, mais qui diffuse de l'électricité ou qui en tout cas partage de l'électricité avec les pays A, B, C et D, qui sont des pays de la région. Donc voilà, l'objectif de l'étude vraiment de la Market and Demand Study, c'est de la projection, c'est de la modélisation pour voir un peu quelle est l'infrastructure de demain. Et c'est une cartographie de l'infrastructure d'aujourd'hui et de voir quel est le fossé et comment combler ce fossé. D'accord? Donc la façon dont on s'est organisé pour mener à bien cette étude, qui est très large, c'est vraiment une étude qui couvre beaucoup d'aspects, qui était très importante, qui a été menée par l'Union africaine avec l'appui de CPCS depuis plus d'un an maintenant, qui a beaucoup, beaucoup de ramifications. Mais j'ai essayé de synthétiser, on a essayé de synthétiser ici les éléments clés. Et il y a, disons, deux grands axes de travail. On identifie, comme je le disais tout à l'heure, les limites en termes d'infrastructures, en termes de services d'infrastructures. Est-ce que le continent possède les infrastructures régionales dont il a besoin et telles qu'exprimées par la demande continentale? Et deux, quel est le fossé en termes de mise en œuvre? Quelles sont les améliorations qu'on pourra apporter dans l'organisation actuelle pour améliorer la mise en œuvre de ces infrastructures qui sont demandées et qui visent à répondre à la demande, en tout cas. Donc, vous voyez ici qu'on a, disons, six tâches opérationnelles. En haut, en bleu, on a la tâche 1 qui vise à cartographier l'infrastructure existante aujourd'hui. La tâche 2 qui va modéliser, qui a modélisé la demande future à l'horizon 2030. La tâche 3 qui fait la différence entre l'infrastructure régionale et continentale disponible aujourd'hui et la demande future pour identifier ce que j'appelais le gap, le fossé, d'accord, et traduire ce fossé en termes de demande d'infrastructure en capacité et puis en argent, hein, en termes d'investissement, d'accord. Et puis, une fois qu'on a les besoins d'investissement, on a une tâche 4 qui dit, ben voilà nos besoins d'investissement, comment on peut les combler? Quelles sont les sources de financement qu'on peut valoriser pour répondre à ces besoins d'investissement? Et donc, cet axe de travail numéro 1 est axé sur l'infrastructure. L'axe de travail numéro 2, c'est les tâches 5 et 6. On regarde un peu quelles sont les mesures qu'on pourrait mettre en œuvre pour mieux bien mettre en œuvre les projets, justement. Donc, la tâche 5 s'est concentrée sur les capacités en termes de connaissances et de méthodologies de mise en œuvre des projets des agences exécutives du PIDA, la Commission de l'Union africaine, le IUDN-EPAD, etc., l'ensemble, les REC, etc., l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans le développement et la mise en œuvre du PIDA. Et enfin, la tâche 6 s'est intéressée à l'enjeu de la mise en œuvre des projets régionaux. Les projets régionaux sont complexes et on a regardé de plus près quels étaient les risques associés à la mise en œuvre de ces projets régionaux et quelles sont les mesures que les agences du PIDA, mais aussi les communautés économiques régionales et les pays pourraient prendre pour répondre à ces risques. Et enfin, le tâche 7 et 8, c'était consolider l'ensemble des analyses dans un seul rapport, qui est le draft final report, donc le rapport final provisoire, qui est celui que vous avez obtenu. Et enfin, grâce à vos vues, à nos interactions, on pourra assimiler vos commentaires dans le rapport final. C'est très important d'avoir passé, je pense, quelques minutes sur ça parce que c'est les fondements de la conduite de cette étude et je vais maintenant vous amener au travers des analyses qui ont été conduites. Donc, comme je le disais, lors de la tâche 1, on a regardé qu'est-ce qui existe aujourd'hui en termes d'infrastructures régionales et continentales et dans les quatre secteurs, donc que ce soit le secteur des transports, le secteur de l'énergie, le secteur des eaux transfrontalières ou le secteur des télécommunications. Donc, vous voyez en bas à gauche que ça correspond à la tâche 1 de l'étude. Et l'étude a rassemblé énormément de données. Je voudrais ici remercier la Commission de l'Union africaine et l'ensemble des partenaires qui ont facilité l'accès à ces données pour cartographier, et je dis bien cartographier au sens système d'information géographique, le SIG du terme, c'est-à-dire qu'on a réussi à compiler des cartes avec des points GPS, etc., relativement précises, de l'ensemble des infrastructures régionales et continentales existantes aujourd'hui dans les quatre secteurs du PIDA. Donc ici, ce que vous voyez devant vous sur l'écran, c'est juste un échantillon. Bien sûr, il y a de nombreuses cartes, de nombreuses données. Vous verrez par exemple en haut à droite, dans le secteur de l'énergie, on a réussi à identifier les centres de production énergétique, donc les centrales, et selon leur type, solaire, hydro ou bien sûr thermique, etc., et leur capacité. Donc ça, c'est des bonnes choses. Vous voyez à gauche, par exemple, c'est les liens routiers majeurs en gris, et au-dessus, en jaune, c'est ce qu'on appelle les Trans-African Highway, les autoroutes continentales, qui sont supportés par l'Union africaine. Voilà un peu ce qui concerne la tâche 1. On a non seulement cartographié, mais on a essayé d'identifier, on a les capacités de ces infrastructures en valeur absolue. Donc, que ce soit dans le secteur des routes, on a regardé la longueur des routes régionales dans les 5 régions. Aussi pareil pour les centrales électriques, on a regardé un peu la présence de ces centres de production dans les 5 régions, pareil pour les ports, etc., etc. Donc on a une bonne idée du nombre d'infrastructures régionales présentes dans une région donnée et de la capacité de ces infrastructures régionales dans une région donnée. Ça nous donne une cartographie relativement fidèle à l'existant. Quand je dis relativement fidèle, ce ne sera pas une surprise pour vous, bien sûr, que quand on s'intéresse à un projet continental et régional, il y a forcément des limites en termes de données, mais la Market and Demand Study a été exhaustive dans son approche de collecte des données et, je pense, traduit très, très fidèlement ce qui existe sur le terrain. Donc, voilà un peu pour la fin de la tâche 1. Vous voyez en haut à droite, c'était la tâche 1. On a essayé de cartographier l'existant. On cartographie l'existant, on réserve, on met de côté. On s'est attelé à la deuxième tâche de notre mission en début d'année 2020, qui était la modélisation. D'accord. Mais c'est un exercice, je dirais entre guillemets, relativement simple, mais c'est bien sûr toujours un exercice complexe que de modéliser, que de deviner le futur. D'accord. Donc on a développé un modèle en discussion avec la Commission de l'Union africaine, mais aussi les règles, les experts techniques du PIDA, etc. Et donc, on va, comme je vous le disais, on a construit un modèle pour modéliser, prévoir la demande d'infrastructures futures et identifier le fossé entre ce qui existe, que je vous ai présenté, et ce qui va être demandé dans le futur, et donc identifier ce qui doit être investi pour construire des infrastructures régionales et continentales. La façon dont on a construit le modèle, c'est qu'on a regardé dans le passé, dans les 30 dernières années, et on a construit une matrice de corrélation entre des facteurs socio-économiques, l'augmentation de la population, l'augmentation de la richesse, par exemple, et leur impact en termes de demande d'infrastructure, ou la corrélation qu'il existe entre l'augmentation, par exemple, du PIB et l'augmentation de demande en termes de routes. Vous voyez ce tableau qui a l'air complexe comme ça, mais je vais essayer de l'expliquer rapidement. Vous voyez, par exemple, si on prend des exemples, on voit bien que en haut à gauche, on voit GDP, donc qui est le PIB, qui est très corrélé à la demande en termes de route par kilomètre, avec un point d'augmentation, c'est-à-dire une unité d'augmentation dans le GDP entraîne presque une unité d'augmentation dans la demande, donc il y a une corrélation très forte. Tout ce qui est bleu foncé indique une corrélation très forte, tout ce qui est bleu clair indique une corrélation un peu moins forte. On a utilisé cette base-là de corrélation en se disant que dans le passé, ça a marché comme ça, sur de nombreuses années, donc on dégage une tendance et on va extrapoler cette tendance dans le futur pour estimer la demande future. Je voudrais ici arrêter une seconde pour dire tous les modèles ont leurs limites. Ce n'est pas une science pure et dure. Il y a forcément différentes façons d'approcher les choses. C'est celle qui a été choisie ici par le groupe de travail. C'est un modèle quand même qui est relativement reconnu et qui est utilisé par les grandes institutions nationales. Donc, mais bien sûr, personne n'a la science et le futur comme vous. Sur les tendances. À la demande de la Commission de l'Union européenne et de l'ensemble des acteurs du PIDA, et je pense que c'était une bonne demande, on a développé non seulement un modèle sur la base, c'est-à-dire extrapoler la tendance passée, mais on a aussi amené des scénarios, des variantes. D'accord ? On a dit, voilà, qu'est-ce qui se passe pour la demande d'infrastructure si les choses continuent comme elles se sont passées dans le passé ? Et ça, c'est ce qu'on appelle le baseline, d'accord, l'hypothèse de base. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une augmentation de l'exode rural, une urbanisation plus forte comme celle qu'on observe aujourd'hui? Et comment cette urbanisation va impacter la demande en infrastructure? On a aussi regardé, bien sûr c'était inévitable, qu'est-ce qui se passe si les scénarios du changement climatique se réalisent et qu'est-ce que ça veut dire en termes de demande d'infrastructure, par exemple pour l'eau, qui a un impact énorme, mais aussi pour l'énergie, bien sûr, etc. Et enfin, comme l'étude a été prise, bien sûr, comme nous tous, dans la pandémie de COVID-19, l'Union africaine nous a demandé, je trouve ça très sage de dire, attention, il y a des incertitudes sur le COVID-19, comment la demande future en infrastructure pourrait être impactée dans un scénario où la COVID-19 durerait. Donc, comme vous le voyez, on a développé finalement 4 scénarios, un scénario de base et 3 scénarios alternatifs, hein, urbanisation, changement climatique et COVID-19. D'accord. Le modèle, bien sûr, je ne vais pas vous le présenter, mais c'est une machine énorme développée par mes amis d'analyse d'infrastructure, de la division analyse d'infrastructure chez CPCS, dont Gueneg est le vice-directeur ici avec moi. Mais ça nous a permis donc d'obtenir quelques chiffres et de voir l'augmentation dans le temps en termes de demande d'infrastructure pour les secteurs et sous-secteurs du PIDA. Vous avez l'ensemble des informations dans le rapport. Il n'est pas mon intention ici de tout vous présenter exhaustivement, mais je voudrais vous présenter les résultats un peu les résultats théoriques de l'étude qui a été mandatée par la Commission de l'Union africaine. Et comme le disait Yacouba en introduction, cette étude va permettre de garder le cap dans les 10 prochaines années et pourra être référencée dans les 10 prochaines années puisqu'elle donne une projection, bien sûr, 2020, 2025 et 2030 et l'augmentation. Et on pourra toujours comparer à la réalité et l'écart qu'il y a eu entre les estimés et la réalité. Donc, vous voyez toujours le cadre d'analyse de cette étude. On a dit les 4 secteurs du PIDA, on a dit les projets régionaux et continentaux. J'ai oublié de vous dire que on fonctionne par région et pas par communauté économique régionale. Donc, nos termes de référence avaient demandé un fonctionnement par région, c'est-à-dire Afrique du Centre, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe et du Sud. Donc, vous le voyez, ce sont les couleurs ici, bleu, orange, gris, vert, qui sont présentées devant vous et on voit la croissance. En l'occurrence, ce qu'on a sur l'écran, c'est la croissance du nombre de passagers par kilomètre sur les routes, d'accord, en termes de demande. On voit ici un peu comment ça se divise par région et quel est le taux de croissance, etc. D'accord. Donc, on a regardé ça pour l'ensemble des infrastructures, des secteurs et des structures du PIDA, et vous avez l'accès à toute l'information. Indéniablement, on dénote une croissance forte de la demande en infrastructure dans les quatre secteurs du PIDA pour les 10 prochaines années à venir. Ce qui est intéressant avec la Market and Demand Study, c'est que bien sûr, on a tous le sentiment que la demande va augmenter. Mais la Market and Demand Study, elle permet d'essayer de quantifier cette augmentation de la demande et d'informer ou d'aider à la décision des décideurs que vous êtes dans l'identification des projets, les choix des projets, etc. Mais aussi bon, le financement et la mise en œuvre. Justement, donc comme je l'expliquais dans mon introduction, on a estimé la demande future, on a la tâche 1 qui nous avait donné la cartographie de l'infrastructure existante. Donc, on est capable de regarder maintenant, donc vous voyez en haut, on est capable de regarder le fossé qu'il y a entre les deux. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? De quoi on a besoin demain? Il y a un fossé forcément. Et il s'agit de traduire ce fossé en termes financiers, d'accord, pour voir quels sont les besoins d'investissement pour combler ce fossé. Donc, l'approche qu'on a utilisée, je vais essayer de la simplifier au plus possible, mais c'est qu'on a essayé d'identifier, de faire des hypothèses d'un coût par unité de demande d'infrastructure. Par exemple, la demande d'infrastructure routière, on a essayé d'identifier un coût de construction par kilomètre répondant au trafic par kilomètre d'estimé pour le futur que je vous ai montré tout à l'heure. On a traduit tout ça en termes de coûts et multiplié par les demandes identifiées. Je vais aller très vite sur ça, mais on a identifié donc des besoins d'investissement au niveau continentaux importants, bien sûr, qui sont dans le scénario de base équivalent à environ 60 milliards par an pour, donc je parle en millions de dollars américains, pardon, 60 milliards de dollars par an sur les prochaines 10 années pour répondre à la demande en infrastructure des quatre secteurs du PIDA. Quand on s'intéresse au scénario urbanisation, on voit que ça augmente. On passe d'une soixantaine de milliards de dollars par an à 85 milliards de dollars par an. Donc, on voit la pression en termes de demande d'infrastructure qui est traduite par l'urbanisation. En termes de changement climatique, on remarque que ça augmente un peu plus légèrement que dans le scénario urbanisation, mais ça augmente très légèrement, donc d'une dizaine de pourcents ou de 7%, je pense. La distribution sectorielle diffère énormément dans le scénario du climat qu'on pourrait voir dans le rapport. On a les mêmes besoins en termes financiers, mais on a des besoins qui sont plus dirigés vers le secteur de l'eau, vers le secteur de l'énergie, d'accord, dans le scénario du climat. Enfin, dans la COVID-19, il y a pour certains secteurs une augmentation de la demande, par exemple les services informatiques, et je crois qu'on en est la preuve aujourd'hui dans cet appel électronique, mais il y a une demande qui diminue ou qui est contrainte sur d'autres secteurs, puisqu'on a envisagé une diminution, comme vous pouvez le réaliser, des activités et des flux de transport et des flux d'infrastructures qui est comme un impact du COVID-19, donc il y a un besoin d'investissement relativement inférieur. Donc voilà un peu sur ces estimés. On s'est dit bien, maintenant on a une estimation des besoins d'investissement. Comment on va financer tout ça? D'accord? On a parlé de 60 milliards par an. Ça correspond à peu près à ce que les grandes agences internationales estiment aussi pour combler le fossé en infrastructure sur le continent. Pardon. Ici. Eh bien, ce qu'on a fait dans notre étude qui nous est mandatée par la Commission de l'Union africaine, eh bien, c'est regarder un peu quel est l'argent disponible sur le continent, donc qui vienne du continent ou d'ailleurs, mais quel est l'argent disponible. Donc, on a cartographié les différentes sources de financement. On a regardé par source de financement quels sont les risques, les appétits de ces financiers, etc. Et puis, on a essayé de voir parmi ces financements, lesquels étaient les plus appropriés pour venir combler le besoin de financement identifié dans l'étude. Et quand je dis les plus appropriés, c'est lesquels sont les plus à même, en fait, lesquels financements visent le financement d'infrastructures, quels financements sont éligibles pour telle ou telle région, etc. On a regardé la magnitude, enfin, l'ampleur de ces financements, l'horizon, parce que vous savez que les infrastructures, c'est souvent un financement à long terme. Donc, l'horizon des différents types de financements, le risque sectoriel, etc. Et puis, on a regardé ça. Et puis, on a regardé aussi, bien sûr, comme vous le savez tous, on a essayé de regarder de plus près la tendance croissance à l'utilisation des PPP, donc des partenariats publics-privés. Et on a regardé quelles sont les conditions favorables à l'augmentation de l'investissement privé dans les infrastructures. Et pour ça, on a regardé les cadres légaux et institutionnels des différents pays. Vous le verrez dans le rapport, il y a une sorte de score qui est donné par pays. On s'appuie pour ça sur des données de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, et voir un peu dans quelle mesure les PPP pourraient être un véhicule de contribution au financement des infrastructures sur le continent à l'horizon 10 ans. Donc ça, c'est une analyse très intéressante, et on voit bien sûr que pour certains secteurs du PIDA, certains secteurs sont attractifs au financement privé. Bien sûr, ça ne va pas vous étonner, ce sont notamment les secteurs dont les services d'infrastructure sont payés par l'usager et qui représentent, qui génèrent un flux d'argent qui peuvent venir repayer l'investissement qui serait concédé par le secteur privé. Donc, l'étude montre une approche de bankability ratio, c'est-à-dire de ratio de profitabilité d'un secteur, et essaye d'identifier dans quelle mesure donc le PIDA dans son ensemble peut absorber des financements privés ou peut attirer des financements privés. Enfin, vous vous rappelez tout à l'heure qu'on avait un second élément de travail, dans un second axe de travail dans le cadre de la NDS, qui était les capacités. D'accord ? On sait qu'on a une demande supérieure à l'existant. Il va y avoir un fossé. Il y a du financement qui va aller avec des projets. Eh bien, il faut mettre en œuvre ces projets. Est-ce que les agences en charge et les entités en charge publiques de mettre en œuvre des projets publics ont toutes les capacités? Pas toujours. On parle des projets régionaux, c'est complexe. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que on s'est appuyé sur l'étude qui a été aussi menée par l'Union africaine, qui était l'étude de suivi-évaluation du PIDA Papouane, qui a identifié certaines limites dans la mise en œuvre. On s'est appuyé sur ça, on a rajouté certaines limites que nous-mêmes on a pu observer à travers des analyses. Et sur la base de ces limites identifiées, on a construit face à ces limites un plan de renforcement des capacités avec un certain nombre d'axes de travail. Et donc la MDS propose des axes de renforcement des capacités pour permettre aux agences d'exécution du PIDA de mener à bien leur mission de mise en œuvre des projets. Enfin, on a regardé aussi, donc il n'y a pas que les agences du PIDA qui ont des enjeux en termes de mise en œuvre, mais les projets régionaux restent un animal compliqué à mettre en œuvre. Ça implique toujours plusieurs pays. Il y a des questions institutionnelles, opérationnelles, légales qui s'associent avec les projets régionaux. Donc, ce qu'a fait aussi la MDS, c'est regarder un peu quels sont les risques associés aux projets régionaux, généralement, et en fonction de la phase, quand on identifie des projets, quand on les développe, quand on les met en œuvre et quand on les suit. On a regardé les projets régionaux dans le monde, puis on s'est reconcentré sur l'Afrique pour dire, OK, dans l'ensemble des enjeux des projets régionaux dans le monde, quels sont ceux qui sont spécifiques à notre continent? On a regardé, donc, on a classifié les risques par étapes. Et quels sont ceux qui sont spécifiques au PIDA? Et enfin, on a offert, une fois identifié les risques spécifiques au PIDA, on a offert une matrice de gestion du risque de la mise en œuvre des projets régionaux. Donc, on arrive bientôt à la fin de la présentation. Merci de votre patience. Vous voyez, c'est une étude qui était très complète, qui a couvert beaucoup d'aspects. Et je suis personnellement très fier de vous présenter aujourd'hui. C'était une étude très intéressante pour nous à CPCS. Cette étude s'inscrit, comme le disait Yacouba, dans un cadre plus général. C'est le fameux cadre du PIDA PAPTE, c'est-à-dire la seconde itération du PIDA, qui est le programme général. Il y a eu le PIDA PAP1 entre 2012 et 2020, et maintenant on est dans la phase du PIDA PAP2 2020-2030. Vous le savez certainement qu'il y a plusieurs activités en parallèle, dont le MDS en est une. Et je voudrais, à travers les prochains quelques slides, vous montrer comment la MDS, donc Market and Domain Study, cette étude que je viens de vous présenter, contribue au processus global du PIDA PAP2. Elle contribue sur trois endroits majeurs. Le premier, c'est sur l'identification de projets. Le PIDA, la MDS, par sa modélisation, par son approche analytique et quantitative, amène des informations qui permettent aux communautés économiques régionales, mais aussi aux agences d'exécution de l'État, à s'assurer que la planification du PIDAPAP tout répondra à la demande future qui a été identifiée par le, qui a été quantifiée, estimée, disons, estimée par la MDS. Donc, on voit qu'il y a une contribution très forte en termes d'identification de projets pour le plan PIDAPAP tout. Le deuxième élément, et vous l'avez vu, dans le cadre de l'étude de la MDS, on a analysé les sources de financement possibles et leur degré, disons, leur degré de, comment dire, les mots m'échappent, mais leur degré de pertinence pour la demande à l'infrastructure future. Eh bien, ça crée une entrée pour ce que la Banque africaine de développement est en train de développer, c'est la stratégie de financement des projets du PIDAPAP 2. Donc, la MDS a identifié de nombreuses sources de financement, leur degré de pertinence pour les projets, enfin pour le PIDAPAP 2, pour le PIDA en général. Et bien sûr, la stratégie de financement va s'appuyer sur les trouvailles de la MDS et finir de construire la stratégie de financement. Et enfin, le troisième élément, vous le savez, c'est les derniers éléments que je viens de présenter. La MDS a regardé un peu quels sont les enjeux de mise en œuvre, à la fois les enjeux de mise en œuvre liés à la complexité des projets régionaux, mais les enjeux de mise en œuvre liés à la capacité des agences d'exécution et des entités publiques à mettre en œuvre le projet. Eh bien, dans la MDS, on a recommandé un ensemble de mesures qui pourraient être prises pour assurer la mise en œuvre. Eh bien, là, ça a beaucoup aidé à construire ce que la AUDI-NEPAD a construit et qui s'appelle la stratégie de mise en œuvre du PIDAPAP 2. Donc, vous voyez, la MDS, dans sa nature, a été bien construite pour répondre à chaque étape du PIDAPAP 2. Donc, je peux, si vous voulez, amener à l'ensemble des éléments, mais je crois je voudrais laisser du temps pour les questions et réponses. Mais vous voyez, donc, je le disais, en termes d'identification des projets, s'assurer que la demande identifiée par l'MDS, qui est beaucoup plus grande que le PIDAPAP 2, donc on est bien dans cette fourchette-là, ou en tout cas, les projets du PIDAPAP 2 viennent combler le fossé en termes de demande. Bien sûr, ce n'est pas que le PIDAPAP 2 qui comble tous les fossés, hein, mais il y contribue largement. Enfin, comme je disais tout à l'heure, la stratégie de financement, ce que le PIDAPAP 2, les estimations de sources de financement vont venir informer, vont venir, disons, contribuer à la formulation de la stratégie de financement du PIDAPAP 2. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, en termes de mise en œuvre, non seulement sur les capacités, le plan de renforcement des capacités, mais les limites en termes de projets régionaux qui sont maintenant transférées dans ce que le AUDI-NEPAD a préparé, qui est la stratégie de mise en œuvre du PIDAPAP. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'arrive vers la fin. Peut-être Gueneng ou moi, Gueneng, je ne sais pas si tu es là, mais l'un des résultats du PIDAPAP, de la MDS, c'est aussi d'avoir, comme je disais au début, cartographier l'ensemble des infrastructures. D'accord? Et on a des données de système d'information géographique, des données GPS sur les infrastructures existantes. Et ça a donné la création d'un outil de visualisation des infrastructures qui est consultable sur le web, qui a été développé pour l'Union africaine. À l'heure actuelle, ce que vous voyez, c'est la version bêta, c'est-à-dire la version préliminaire avec les logos CPCS et tout ça, mais ça va être internalisé auprès de l'Union africaine et on va continuer à l'améliorer au fur et à mesure. Mais rapidement, un aperçu, cet outil nous permettra de regarder les infrastructures existantes par secteur et sous-secteur, de les visualiser, mais aussi de regarder un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure en termes de besoins en capacité par unité d'infrastructure. Donc, que ce soit par kilowatt, que ce soit par kilomètre parcouru, que ce soit par tonne équivalent 20 pieds pour les ports, etc. Et ça, c'est un outil qui est très intéressant, je dirais un outil vraiment un bon outil qui est issu de la MDS. Donc, je vous remercie pour ces 30 minutes de présentation. Merci de m'avoir donné la parole. On vous remercie beaucoup. J'ai hâte de pouvoir discuter ça avec vous. Merci, Yacouba. Thank you all.
OK, merci, Hicham. Thank you, colleagues, for your attention. I know there is a challenge in terms of language, but I think the presenters was fair to show the slide in English and make the presentation, the speech in French. At least it has some balance. So now, without further ado, we can now start the discussion for comments, for suggestion, or even raising some question for clarification. If we have concern about one specific slide, you can maybe mention the slide. I could see that the slide had numbers. We can go back to the slide to kind of get the clarification. We did not share the draft reports beforehand because we know that we are busy now, but any input that you can provide at this time, whatever we can take into account, your comments, pertinent comments, we can still take into account. I know some questions were also raised in terms of the final report. When the report is finalized, we'll put it in French and English and share with all the focal persons. We'll also publish them on the PIDA website. So the floor is open. Vous pouvez soulever vos questions. Et si vous avez des demandes de clarification ou des demandes de précision sur une slide en particulier, vous pouvez mentionner le slide, on va représenter le slide et puis donner plus de détails. Donc, comme je disais au début, nous nous excusons pour le manque d'interprétariat, mais nous sommes là, nos collègues sont là pour rendre les différentes prises de parole plus démocratiques. So you can speak in the language of your choice. Colleagues are around here to make your speech more democratic. So everyone will be translating them. So the floor is open. So when you raise the floor, since we are many, we do not have time to present ourselves. So when you start, when you take the floor, please kindly present yourself, the country and the sector that you are working in. Donc, quand vous prenez la parole, priez de vous présenter le pays que vous représentez et puis le secteur dans lequel vous travaillez, le pays ou l'institution que vous représentez. Merci beaucoup. Donc, I can see that Dr. Dafala would like to take the floor. You have the floor, Dr. Dafala.
Thank you very much, Mr. Yagouba, and I also thank Hisham for the presentations. That it's very good, and for the study, actually, they did well. I have some questions and comments. The questions coming on the COVID-19 and the climate change impact on the ICT, they put not applicable. N/AI thought it is not applicable. But for the COVID-19, most of the people now, even now we are meeting online, which is a demand on the internet, bandwidth and so on. There is a smart work, e-learning, many schools and so on, they are working online. And the people now are going further for the virtual life and so on. And I think it will continue maybe for another 1 year and so on. So the demand should be affected, whatever the case is, to some extent there. And the climate change, because ICT is very crucial when there is a disasters or when there is floodings and so on. So there will be in certain areas a high demand of traffic and so on. So it has to be some way or another to be taken into account on that issue. The investment they put there, I don't know how they calculate the forecast itself. They put it on the GDP and the population and so on, and this is goes for the last mile. But when you go to the regional, even this is applied to all sectors, when you go to the regional, the demand will be coming on the national traffic and so on. How that is calculated, because that will have effect on the investment on the cross-border links. Because there are many countries in Africa that they don't have cross-border links, and some of them they have only one link. And according to the vision of the AUC, there should be at least two cross-border links and two links to submarine cable stations and so on. How these things are be tackling in the MDS itself. For the investment, I see ICT investment is low, but when we go to the Infrastructure Consortium for Africa, the report there show the investment for 2017 is almost 2.3 billion US dollars. And other years, there is one year, I think 2016 is 1.7 million billion US dollars. And how comes for the 10 years is almost less than 1 billion or I don't know how much exactly in the figure there. That need to be really looked at. Because when you bet it on STM 1 and STM 4 or whatever, it might have impact on the investment of the ICT and maybe. For the capacity building, the comment I want to mention, they said there will be activities planned for the, under each phase of the project, preparation, constructions, operations, and so on. But I think that should be with the objective of transfer of technology, because we want to get rid of that attitude of having a 10 key project. We need the African to know the, to have the skills to prepare, construct, and to operate. Because when you do that, you will have more cost-effective operation and maintenance of the systems and so on. But when you have it as a 10 key, the operation and maintenance will be high, and it will be almost infrastructure self-investment will be very high. So this is, should be really very clear that any capacity building should have the objective of transfer of technology to the African at the end of the project so that they can maintain and operate themselves. Thank you very much. Thank you.
Bonjour, Yacouba, je peux parler?
Oui.
C'est Demba Bundi de Côte d'Ivoire.
Allez-y, Monsieur Demba.
Oui, j'ai bien vu la présentation et je félicite tous ceux qui ont fait cette étude qui nous donne beaucoup d'informations, qui nous permet un peu d'avoir une image des infrastructures telles que ça existe en Afrique, telles que les sous-régions peuvent se connecter. Maintenant, j'ai compris qu'il y a des facteurs de projection qui ont été identifiés par l'étude. Et sur cette base, donc, il y a eu des projections pour le futur développement donc, des infrastructures et des demandes potentielles pour les infrastructures, toutes les infrastructures. Alors, je voudrais savoir quel est le lien qu'ils ont fait avec la connexion entre les lieux de production et les marchés. Parce que moi, je pense que c'est... Bon, je n'ai pas bien vu dedans. Peut-être que c'est, ça a été pris en compte. Mais je voudrais savoir si ça, ça a été fait, mais qu'on m'explique exactement que les projections pour les infrastructures, quelles que soient les infrastructures, peuvent bien lier les marchés et les zones de production entre eux. Voilà un peu ma question, si je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Mais pour moi, c'est important que si on construit des infrastructures en Afrique, telles qu'on veut faire maintenant en Afrique, donc connecter l'Afrique, comme on a dit plusieurs fois ensemble. Alors, je voudrais comprendre que cette connexion de l'Afrique est bien, parce que ce que j'ai vu, c'est les projections par rapport au nombre de passagers, aux besoins de circulation et tout ça. Je voudrais savoir si la production est prise en compte et puis les marchés. Merci.
OK, merci. Merci, M. Demba. La question, elle est claire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir? On va prendre une troisième personne peut-être avant de donner des explications. Is there anyone who wants to intervene? Maybe a third person before we provide the clarifications. OK. I don't see anyone seeking for the floor. So, Hisham?
Yes, thanks. Thanks very much, Yacouba. And thank you very much for your questions. I will respond in English for Dr. Dafala and en français pour Monsieur Demba, if you don't mind. So, Dr. Dafala, thank you very much. I noticed your comment and you were right to the point, and thank you. So, the first question was about ICT and COVID-19. And you're right, we were also surprised for the very small variation between the baseline scenario and COVID-19 scenario in the ICT sector. What we understood, what I understood from my ICT expert and ICT team, we have, of course, a team by sector, and which is Maria, maybe you know, and from Sofrecom, which is Orange. And what she explained to me is that baseline scenario was anyway projecting ICT connection among all countries, okay? IXPs, broadband, all necessary to make that connection. Any increase in demand will be met not by multiplying the number of connections, building another broadband, but will be met by adjusting the technical specs of a broadband, you know, allowing for more connection within the same infrastructure, the same linear infrastructure. So I was surprised as well as you, Dr. Dafala, and I'm happy to discuss that. And also, I mean, so that's my response. ICT, climate change, I would say it's the same. Why ICT is not changing a lot compared to baseline scenario? Because baseline scenario is assuming the implementation of all broadband lines, all connection and IXPs, and connection to submarine cables to connect all countries. Once this is done, you can handle 2 consumers or 2 million consumers, depending on the technical aspects. So that's my understanding, Dr. Dafala. What do you think? Doctor?
Actually, when there is a flooding or when there is a disaster in certain area, that area will be flood of traffic.
Mm-hmm.
That is understanding, because the other rest of the part of Africa, when there is no flooding, will be a normal situation and so on. But if that taken into account when they design the link, then that will be okay, because you need to increase the percentage of the gross per year so that you can you can cater for such things.
Exactly.
You increase the percentage of the gross. Even for the COVID-19, you put some estimation, 1% or 1.5% and so on, so that you cater for that. You put it as a percentage, but not applicable like that and so on.
Okay.
Hisham.
Hisham. I'm sorry.
Hisham, the issue is like what Dr. Dafala said. If it was provision from the start, then you can say that there won't be much effect or impact. It will still be the same because the pipe has taken consideration of what is happening. But as we know and what we're experiencing in our countries is that there is a flooding within the network every time. And that issue of bandwidth scarcity, it's virtually throughout the whole continent. And the forecast and the assumptions that were made, mm-hmm. It's for an ideal situation, and the reality is totally different. As he said, if you look at some of the countries, kids are not going online for schooling because the bandwidth is not available. Mm-hmm. So you have to really look at the assumptions that were made for the modeling, and then the scenario should be changed. Because in reality, what is happening and the assumptions are totally different. So both for COVID and the climate change. And I think the baselines needs to be revisited. And I think you should look at the World Bank study that looked at the broadband development and formation that's supposed to take moonshot. Place.
Yeah.
Yes, moonshot, yes.
Okay, Abdurrahman. Yeah.
Okay. Sorry. Yes. Hello. This is Mike. Hello.
Mike.
Yes, this is Mike. Yeah. Afternoon. Okay. Just to add on the ICT assumption discussion, I think it's very important also to project. First of all, what kind of infrastructure Africa wants going forward? What we want is a modern infrastructure, smart infrastructure. Infrastructure that leverage technology to the extent that project, you know, the continent into the fourth industrial revolution and so on. So I think these are also the broad assumption that should support this projection. So the smart infrastructure agenda is key. So if you look at energy, transport, e-mobility, mini grid, and so on, you know, smart grid and then smart, you know, energy. I think these are things that you know should also come to add, which will affect demand. There was a you know question about what AICA report has reported in terms of investment into ICT and what we are projecting as a need within the 10 years PIDA. So there's, you can see there that there's a lot of disconnect. So the AICA report was very specific about investment recorded in that particular year, which is increasingly coming from private sector. So this is before COVID. And now if you project with after COVID, you can imagine that this is going to increase. And if you add on to that smart infrastructure demand, that means ICT mainstream into other sectors of infrastructure, let alone ICT itself. So you can see that the demand can actually triple. So I think this assumption is very important. And that narrative also should inform the market demand for infrastructure for ICT in the next 10 years. So you have three things that is informing big trend, macro picture. One is actually also bridging the gap on ICT that we initially have, which now with COVID is going to exacerbate. Second, smart infrastructure agenda that is also increasing demand on ICT. So if you look at those things, and then the third, of course, you have the whole social infrastructure sectors. You know, beyond energy and transport and water, you have health, education. So there's a huge demand on ICT going forward. And if you take a look at the African continent today, you know, where are the missing link in the backbones? Where are they? We have laid out some submarine cable, fiber optic here and there, but it's not fully interconnected. Just take an example, Central African region, there's still need for interconnecting to interconnect the region. So these are the macro trend and some of the, you know, assumption that I think should come to support a higher increase in ICT investment going forward. I just wanted to put that in from our perspective. Thank you.
Thank you, Mike. Thank you very much.
Thank you, Mike. Oui, en fait, il y a eu de discussion. Je vais essayer de résumer brièvement ce qui a été dit depuis Dr. Dafala en passant par Abdulrahman. En fait, ils ont soulevé la question que les projections ou les estimations telles que c'est fait dans le secteur des ICT n'ont pas tenu compte de, ne semblent pas avoir tenu compte de certains facteurs. Que partout, normalement, le besoin en ICT ou en TIC, TIC, hein, le besoin en TIC devrait augmenter quand on prend le contexte actuel du continent et même dans le développement des infrastructures sociales, parce que on veut rendre on veut rendre nos infrastructures plus intelligentes, donc dans les autres secteurs, par exemple dans le secteur de l'énergie ou dans le secteur des transports, on veut que ces infrastructures soient plus intelligentes. Donc ça veut dire que ces infrastructures ont besoin encore de plus. On aura besoin de plus d'infrastructures TIC pour rendre ces infrastructures intelligentes. Et quand on prend aussi le contexte social, notamment le contexte que nous vivons aujourd'hui, on voit un besoin plus grand en termes d'infrastructures de TIC, parce que dans le contexte de COVID aujourd'hui, quelqu'un a dit que il y a des pays où les enfants ne vont plus à l'école parce que non seulement les écoles sont fermées, mais ils n'ont pas aussi d'infrastructure de TIC pour pouvoir suivre les cours en ligne. Donc, il propose à ceux qu'on revoie un peu les hypothèses, depuis même l'hypothèse qui a été définie dans le cadre du secteur de TIC, et aussi de tenir en compte d'autres facteurs, notamment le fait qu'on veut rendre des infrastructures des autres secteurs aussi plus intelligentes. Oui, donc voilà, donc si ça c'est fini, il y a monsieur notre confrère de la Côte d'Ivoire qui a soulevé une question. Il a soulevé un procès. Donc, attendez, je vais, let me translate it in English because he raised his question in French. He was looking at when we present the results. He was looking at the link between this infrastructure, the planned infrastructure, and the production on the and the production, how the infrastructure are linked with the production. So he was asking if the study took into account the linkage between the infrastructure and the production zones.
The production zone and the markets.
Ah, yes, sorry.
Production are you willing, yes. Yeah, this element, I've not seen it in the presentation, but you can talk about it. Maybe it's taken into account, but my question is, do we look at this aspect of the projections and how did we do it?
D'accord. Merci, Monsieur Bundi. Merci, Monsieur Demba. Merci beaucoup pour votre question. C'est une très bonne question et qui ressort. Et en fait, c'est une question méthodologique. C'est-à-dire que l'étude de MDS n'essaie pas de définir des origines et des destinations linéaires. Donc, c'est-à-dire, par exemple, comme vous le dites, des lieux de production vers les marchés. Elle regarde la région dans son ensemble. Et c'est au pays, justement, de s'appuyer sur la MDS pour identifier chez eux qu'est-ce que ça veut dire, cette demande d'infrastructure. Est-ce que c'est San Pedro, Abidjan, pour prendre un exemple national, hein? Est-ce que c'est plutôt Abidjan vers le nord, vers le Burkina, etc. Donc, les questions de quels sont les lieux de production vers les lieux de marché ne font pas partie de l'objet de la MDS, qui, elle, regarde la demande à l'infrastructure générale dans une région. Et puis, chaque pays traduit ça en termes d'identification et identifier les projets origine-destination, donc, qui sont le plus à même à répondre à cette demande. J'espère que ça répond à la question, Monsieur Demba, ou peut-être on peut en parler un peu?
Bien, si c'est grave, puisque l'étude est orientée de cette façon, on Exactement. Va regarder, et puis, parce que pour nous, il s'agit d'interconnecter les pays africains. C'est vrai qu'on a l'approche corridor aujourd'hui, où on relie différents pays à travers les corridors et autour des corridors, on fait des infrastructures. Mais aujourd'hui, quand on parle de développement d'infrastructures en Afrique, il faut penser lier les marchés africains entre eux par des infrastructures. Et comme ça, on peut faire des projections et savoir que, parce que potentiellement, il faut qu'on découvre les zones de production. Ça peut être production minière, comme ça peut être production agricole, et les marchés qui ont besoin de toutes ces productions, peut-être qu'on va tendre vers une industrialisation. Et pour qu'on puisse tendre vers une industrialisation, il faut développer les infrastructures telles qu'on le dit, toutes les infrastructures. Maintenant, peut-être que votre étude s'est basée sur la croissance, donc c'est une étude empirique démographique pour dire les besoins donc, de croissance des populations va entraîner donc, les besoins de développement de certaines infrastructures. Bon, ça aussi, c'est possible.
C'est exactement l'approche. Vous avez très bien compris, je crois, M. Demba. Tout à fait.
OK, merci, M. Ouais.
Yacouba, yes, just to add to this. Je pense que la question, c'est une question très, 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 très pertinente. Hein. On l'a nous-mêmes débattu également au sein de notre task force. Je pense que... en fait, ça revient à dire pourquoi les infrastructures, en fait. Voilà la question fondamentale. Pourquoi les infrastructures? Et donc, c'est ça qui fait que on doit forcément passer par les centres de production et les marchés, parce qu'il s'agit de faciliter l'échange des biens et services, et également de faciliter la mobilité des personnes. Et en interconnectant les zones, que ce soit une interconnexion économique, donc ce qu'on vient de dire, qui est de connecter les zones de production au marché, et une interconnexion spatiale, qui est de d'interconnecter les plus de l'Interland au port, hein, au port à la mer, pour notamment faciliter l'accès et évacuation et importation, exportation, donc notamment, bref, le commerce. Donc, il y a plusieurs façons de voir ça, hein, de voilà une intégration économique, spatiale, qui sont nécessaires pour une intégration économique et sociale du continent. Donc, je pense que la question reste pertinente, même si Hichem a expliqué l'orientation de l'étude qui a pris l'approche, si on veut, basée sur la demande individuelle. Exactement. Voilà, exactement. Mmh. Mais je pense qu'il y a lieu quand même d'essayer d'intégrer cet aspect-là, si ce n'est pas trop tard, mais je pense qu'on pourra en discuter. D'ailleurs, je fais partie de l'équipe, hein, donc je parle comme ça, mais je fais partie de l'équipe aussi, juste de voir comment est-ce qu'on ne pourra pas intégrer cet aspect dedans. Je pense qu'il y a quelques détails qui font référence à cela, mais ce n'est pas l'approche méthodologique qui a été retenue. Mais néanmoins, le rapport en fait référence dans certains points du rapport. Mais je pense que ce ne sera pas trop tard, où on va avoir la possibilité d'intégrer cet axe-là dans la demande, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est le rapport théorique, si on veut l'étude qui justifie aussi le choix des projets à la fin de la journée. Parce que le choix des projets est fortement lié à l'approche méthodologique. Donc, je pense que, puisque c'est une approche de corridor intégré, il serait opportun de prendre note de cette question pertinente et puis essayer de voir dans quelle mesure on pourra refléter ça un peu dans l'étude, quoi, si c'est encore possible. Merci.
Ok, merci Mike. So the question that was raised by Mr. Demba, we have agreed that yes, it's a pertinent question because actually his question was whether the study considered the economic zones and the markets, and the consultant tend to reply that yes, it's not it wasn't part of the terms of reference explicitly, but still the question is still pertinent, and I remember that I think throughout the report there is mention on these two matters. Maybe we'll see if the consultant could highlight some of them. I think they are already referenced somewhere in the report. It's just a matter maybe to highlight them and or to kind of draw some recommendation in that regard if it's not explicitly covered by the study. Ok, any other intervention? Est-ce qu'il y a d'autres interventions?
Je voudrais quand même remercier Mike pour son intervention. Ça nous met un peu à l'aise et on attend quand même la suite de l'étude. Si on prend ces différents éléments en compte, ça peut nous rassurer qu'on peut interconnecter l'Afrique.
Ok, merci. Merci, Monsieur Defa.
Yacouba, isn't it Hicham, isn't the demand projections linked with the CFTA, which should look at some of the productive zones and the industrial corridors that are within the continent?
No, we looked at them, and it is well mentioned, Rupert Abdul, on the hotspot, if I may say, in terms of demand for infrastructure, and it's linked to the... Yes. African Continental Free Trade Agreement, of course, and it's chapter one of actually of the draft panel report. You see, of course, what Mr. Demba was saying, like, do we have all the production costs linked to the markets, etc.? And I said, no, we don't have them all of them exhaustively, and but we mentioned this approach, of course. But our demand is mapped by region and by hotspots. And please, I would like also to make a point here that the market demand study look at the demand, and then the supply is the PDAPAP 2 plus national master plans plus et cetera, et cetera. So there is this demand supply aspect to keep in mind. And the supply has, of course, origin and destination because it bought projects. Infrastructure supply. Thanks.
Okay. Donc, la question soulevée par M. Abdourahman était de voir est-ce que on a tenu compte aussi de la zone de libre-échange. Oui, le consultant a dit effectivement, on a regardé ça. Le rapport n'est pas partagé aujourd'hui, mais il y a un paragraphe qui décrit le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui et notamment la zone de libre-échange. Peut-être il y a des éléments qui ne sont pas explicitement détaillés, mais ça a été pris en compte. Is there anyone who want to raise concern, questions?
Yes, Yankuba.
Yes, Mr. Barania. Oh, Peter.
Yeah, Peter.
Okay, yes. Peter, yes.
Sorry, I just came in. I don't know whether I'm late or my issue has been discussed, but let me ask this question and then maybe you'll be able to place me at the right perspective. We are currently undertaking the feasibility design of the Abidjan-Lagos corridor. Now, consultants are supposed to establish growth rates for the design. What I am observing is that they are not considering this free trade area, the integration that we are embarking on. I don't know whether this study has anything that we can rely on in directing them or guiding them as to how they have to encompass this in the establishment of the growth rate that they are using for the traffic in particular. Thank you.
Okay, thank you, Peter. Any other one? Okay, maybe Hisham, you can try to.
Okay. Yes, of course. I think it's a good comment from Peter. When we look at the example of Abidjan, Lagos, you know, one element we took is the population centers, okay, and the settlements of cities with more than 50k inhabitants. So of course, Abidjan, Lagos represent a key element in terms of density of population and demand for infrastructure, and it is driving our model. This is one. Two, of course, our model takes the assumption that there is no borders, there is no inefficiency at the border, and but the demand of any Benin citizen can be met by anything produced in Ghana, for instance. So we took the assumption that the African Continental Free Trade Agreement is put in place, there is no border, there is efficiency at the border, and so the demand, the regional demand, can be met by regional infrastructure. So yes, Peter, to respond to your question, that's exactly like you mentioned it, that's the approach we took, yeah.
Let me add this. That means that if a consultant is developing growth rates and you're looking at centers, mm-hmm. he should look at centers beyond Lagos, that is Cameroon and other places or towards that side, and also mm-hmm. from the Côte d'Ivoire side, you should be looking at places like Morocco, whatever, also coming in there. Mm-hmm. Is that right?
Feeding into the rest of the network. Yes,
exactly.
We looked at regional networks and continental networks. So also we assume there is no border between two regions. You know, what goes from Morocco can feed into Cameroon, and there is a share of it that goes through Abidjan Lagos, of course.
Okay. Mm-hmm. Forgive me. I just got a link to participate. So no problem. I have no idea as to the stage in which you have reached. May I know there has been any report submitted on this study as of now?
Okay, Peter, if you may, just let me summarize your discussion with the question that you raised in French. Mr. Peter a dit qu'ils sont en train de faire une étude de conception sur le corridor Abidjan-Lagos et les consultants qui sont en train de travailler sur cette étude, apparemment l'étude ne contient pas l'aspect de la zone de libre-échange africaine. Donc, il demandait si le Market and Demand Study pouvait servir de référence pour cette consultation. Donc, la réponse qui a été donnée, c'est que le Market and Demand Study a assumé qu'il n'y a pas de frontières, en fait. Donc c'est comme si la zone de libre-échange a été mise en place. Donc les projections qui sont faites, c'est qu'il n'y a pas de frontières entre les pays. Donc quelqu'un pouvait aller de l'autre côté de Lagos, il pouvait aller jusqu'à Yaoundé, ou bien s'il veut, il peut aller dans les marchés jusqu'au Maroc. Voilà, donc c'est la réponse qui a été donnée. Et la deuxième question de Peter, c'est de savoir, parce que comment il dit qu'il est venu un peu en retard, la présentation avait déjà démarré ou la présentation était même finie. Donc, il veut savoir si le rapport a été distribué. Je réponds à ça. Le rapport n'est pas encore distribué, mais ça va être distribué très prochainement quand il sera révisé. Donc on va réviser le rapport et puis on va distribuer à tous les points focaux et à tous les participants, et on va le publier aussi sur le site du PIDA. So to the question whether the report has been distributed, I say that the report is not yet distributed. We are updating it, finalizing it, but hopefully in the next few weeks, we'll be able to disseminate the reports, and we'll be sharing with all the focal points and also post it in the on the PIDA website.
Juste une petite intervention. Oui. Ça, c'est juste un petit commentaire à l'endroit de Hichem et puis de Peter de ECOWAS. Je pense aussi qu'il y a un aspect très important qu'il ne faut pas qu'on oublie dans les hypothèses, c'est les plans nationaux de développement. Je pense que pour la région d'ECOWAS, il faut absolument que le consultant qui travaille sur l'étude Corridor Lagos-Abidjan, bon, moi je suis à la BAD, hein, donc nous suivons cette étude dans mon département, que ce consultant tiennent compte également des plans nationaux de développement dans tous les pays qui sont concernés, en premier, pour pouvoir vraiment déterminer les projections du développement économique et donc par ricochet la demande résultante en infrastructure dans ces pays. Ça, c'est un élément très, très, très important. Et puis, nous allons également assurer avec la CDAO sur la tenue en compte, la prise en compte plutôt, de ces éléments-là. Bien sûr, il y aura aussi la projection de liée aux échanges commerciaux avérés ou potentiels pour pouvoir également déterminer le quantum d'infrastructures et qui pour ce corridor qui est économique, on le sait très bien, un corridor économique. Donc, du coup, comme Hichem l'a dit aussi, avec une forte densité de population, dans les villes, les villes côtières, en tout cas, du moins. Donc, il va alterner entre les infrastructures de mobilité et puis des infrastructures aussi de transport des biens et services. Donc, voilà, merci.
Ok, merci Mike. Just to try to, Mike is providing some kind of advice on the work that is being done along the Abidjan-Lagos corridor to take into account two additional elements. One is the national plan of development of the concerned countries, And the second is also to look at the exchange in terms of our trade along the corridor, because the Abidjan-Lagos corridor is well known as an economic zone, but it also a very condensed zone in terms of population. So he's advising that the consultant working on the Abidjan-Lagos should also consider these elements. Thank you, Mike. So c'est bon.
Yeah, Yankuba.
Yes.
Would the report be ready by end of December?
Yes, it will be ready by end of December. Actually, for your information, it will be confirmed. We are planning to have a ministerial meeting on 15th of December. So by then, hopefully, the report would be ready. So the ministerial meeting, we are still fine-tuning in with our partners working on it. Once it's confirmed, we'll send the information to all the member states, all the regs, and to confirm the
kindly send the title of the document to me, I beg you.
Permit?
Yes, the title.
Of the document?
Yes.
It's a market and demand study. PIDA market and demand study.
Okay. PIDA market and demand.
Permit?
Okay.
Okay. Donc, Peter demandait si le rapport va être disponible d'ici fin décembre. J'ai répondu que oui. Normalement, le rapport va être disponible d'ici fin décembre. Et pour votre information, nous comptons organiser la réunion ministérielle qui va valider tout le processus de PIDA PAP 2, la réunion du CTS, le 15 décembre. Donc, on est en train d'engager avec nos partenaires qui sont dans la task force du PIDA pour confirmer cette date. Une fois confirmé, on va envoyer l'information à tous les États membres et au CER pour confirmer la date de cette réunion ministérielle. Donc, ça va être une très grande réunion parce qu'il y a un nombre important de ministres qui sont prévus pendant cette réunion. Okay, is there any other question? We have like 20 minutes to wrap up. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois il y a des.
Oui, Yagouba. Bonjour, Yagouba.
Oui, bonjour, Madame Boumaza.
Oui, bonjour. Donc, je me présente. Je suis Leila Boumaza, point focal énergie pour l'Algérie. Je remercie tout d'abord l'équipe qui a élaboré l'étude pour les efforts déployés. Mais j'aurais une question pour vous, Yagouba, ainsi que le groupe de travail. Est-ce que cette étude a été prise en considération dans le classement des projets prioritaires PIDA PAP 2 qui nous ont été présentés lors de l'atelier du 12 novembre? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. On va vous répondre.
Voilà, parce que si j'ai bien compris, l'étude a fait une analyse sur la demande en infrastructure en Afrique. Et lors de l'atelier du 12 novembre, je pense qu'il y a eu un classement des projets prioritaires qui a été fait. Donc, je voudrais savoir est-ce que les résultats de cette étude ont été pris en considération. Merci.
OK, merci beaucoup. Je vois Madame Joséphine. Madame Joséphine. OK. Bon, apparemment, elle n'est pas...
Allô? Allô, allô?
Sorry.
Il y a un problème, je pense.
Oui, il y avait un problème. Peut-être j'étais muette. So I was trying to translate what Madame Boumaza had said. After thanking the team that has been working on this study, she's asking whether the study was taken into account during the prioritization and screening of the projects of the PDAPAP 2 that was presented to you some days ago. So she wants to have a clarification on that. Actually, je dirais oui que ça a été pris en compte. Quand vous regardez un peu le slide que Hicham a présenté dans les derniers slides, comment cette étude a contribué non seulement à la proposition du nombre des projets qui ont été proposés dans le cadre de la liste des projets du PIDA et aussi comment l'étude a contribué aux stratégies qui sont développées ou qui sont en cours de développement pour la mise en œuvre des projets du PIDAPAP 2. Donc, vous conviendrez que dans la liste des projets qui ont été présentés dans l'atelier de validation au niveau des experts, avait deux catégories principales. Il y avait des projets régionaux, donc qui sont intra-régionaux, mais il y avait aussi des projets continentaux. Donc, en fonction de l'étude, en fonction du besoin qui a été estimé, on a estimé que même si certains de ces projets ont un caractère régional. Parce que quand on a défini les critères et puis la répartition des projets, on a dit qu'on donne, par exemple, 50 projets, 10 projets par région. Mais on a vu aussi que il faut lier les pays entre les régions, mais on a aussi besoin de lier les régions. Parce que l'objectif principal, c'est vraiment avoir l'intégration continentale. Donc, cette couche au niveau des projets continentaux qui vient s'ajouter sur les projets interrégionaux est un peu sortie des résultats de cette étude. Et comme vous voyez aussi que tous les projets qu'on a identifiés dans le cadre de PIDAPAP 2 ne couvre pas le besoin total qui a été identifié par la Market and Demand Study. Donc, ça veut dire que non seulement, quoi qu'on va se focaliser, notre priorité va être sur les projets du PIDAPAP 2, mais il y aura aussi d'autres projets régionaux qui vont continuer leur développement pour pouvoir combler le déficit. So, responding to her question, I was saying yes, this study had contributed into identifying the or prioritizing the project in the PIDAPAP 2 list project. If you see the list of the project that was presented before you during the validation workshop had two main categories. There are projects which are intra-regional within the region, but there are also projects that are inter-regional. So, which means we provided to the region to select 10 best projects in the region according to the PIDA selection criteria. But if we had just limited ourselves within the region, we would not be able to interconnect the region among themselves. And the overall objective of PIDA is actually the continental integration. So this study helped or guided the provided some additional arguments into selecting some these continental projects in addition to the regional project. If we see when the ministers tasked us to prioritize the project, they told us to provide 50 best projects in the region. But based on the analysis and on the study that has been going on, the discussion, we felt actually the task force did a very good job to look at into that direction in terms of our interlinking region, not just limit ourselves to develop the infrastructure within one region or within the region, but we also look at linking the region between themselves. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Is there any other question? Madame Josephine, do you want to take the floor? I can see your hand is raised. Oui, Monsieur Ba.
Je crois Madame Josephine a quitté. Elle vient de m'appeler qu'elle n'arrive pas à se connecter par manque de réseau.
Ah, ok. Je vois que ça m'aide. Oui. Ok, on va aller bien. Ok, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou bien on... Tatana Dio?
Ouais. Bonjour.
Oui, bonjour.
Excellent. Voilà. Pendant l'exposé, il y a un tableau qui a passé où il y a, comment on appelle là, le budget pour les différents projets. Et j'ai vu qu'il y a deux projets où c'est écrit NANA. Ça veut dire que ces projets, on n'a pas pu trouver d'abord le montant qu'il faut pour ces projets ou bien qu'est-ce qui ne va pas.
OK, merci beaucoup. Je vais rapidement traduire ça. So, Mr. Tatana Dio is saying that when they presented the estimated cost of the infrastructure on the continent, on the table there was two columns where we had the NA. So he's wondering what does that mean. Hicham?
Oui, bonjour Monsieur Adio. Oui, en fait, ce que ça veut dire, c'est que on a l'information pour le scénario de base. Vous rappelez, vous étiez là, et on a un scénario de base qui tend à projeter la tendance passée en termes de demande d'infrastructure et visualiser la demande future. Et puis, on a des scénarios alternatifs. Et dans le NA, ça veut dire non applicable en anglais, ça veut dire que dans les scénarios alternatifs, la variation de la demande en termes de ICT pour les deux scénarios alternatifs est marginale. Donc, c'est non applicable dans le sens où elle ne change pas le chiffre du scénario de base. Et c'est une discussion qu'on a eue au départ avec M. Dafala et Max Dalaou et qui va être changée, puisque les hypothèses de croissance d'ICT vont être changées. Donc, c'est ça que ça veut dire.
D'accord. Merci.
Merci à vous.
Est-ce que M. Benouma veut intervenir? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense qu'on va, clôturer la réunion. Ici, en vous remerciant pour votre participation habituelle. Vous avez toujours été avec nous dans cette aventure depuis un ou deux ans maintenant. So, I would like to thank you for your participation into this meeting. Your comments are well taken. We'll make sure that the consultant take them into account, either in the form of the analysis or in the form of recommendation into the final reports. As I said, we'll be circulating the final reports, hopefully after the ministerial meeting. Donc, nous allons distribuer le rapport final après la réunion ministérielle qui est prévue pour le 15. Si c'est confirmé, vous allez recevoir les invitations. Ça va être en ligne. So the ministerial meeting will be online. So I think that's all for me. Maybe I will give the floor to Krishna and Mike to to say maybe to also thank you for your participation, Krishna.
Yes, thank you. Thank you, Yakuba, for moderating this important session. Yes, I think there have been some very good discussions. This feedback from the member states and RECs is critical, I think, to connect this model, I would say this top-down model, to the realities on the ground. And I'm sure we will adapt, we will learn from this process and benefit from it. So maybe Mike, you want to say a few words? I don't know whether he's still connected. Let me maybe.
And Monga, is Monga alone?
Monga.
Yes.
Yes, Monga. Monga. Would you like to say a few words?
I won't say a few words. Let me apologize first for joining late. And as I was in another meeting of PIDA, preparatory meeting for the PIDA week, you know, I've listened to the tail end of part, and then I'm hoping that the sort of the meeting of today was recorded, you know, for our sake, so that we can review sort of the contribution from everyone. That's what I can say.
Yes, the meeting is recorded, and as from tomorrow, it will be posted as usual.
Okay.
On the PIDAPAP website, so all the focal points who have login access will have access to the recording, and eventually, I guess, Hisham, could you? Maybe we can also post the PowerPoint presentation if you send it to us. Thank you.
Yes, that would be great because I missed the PowerPoint presentation.
Yeah, thank you. Yeah, that will be done. Thank you. Yeah. So, colleagues, I think we have come to an end, and we would like to thank you again for this very, very active for your active participation in this whole process, and we look forward to now the final steps in the PIDAPAP 2 process, and we will certainly this is not the last webinar. I'm sure we will catch up with some interesting sessions in the future, I hope, and thank you again for your participation, and looking forward to see you again soon. Keep safe. Thank you.
Okay. Thank you. Yeah. Bye-bye.
Bye.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thanks, everyone. Thanks for your attention.